Écho d'économie.
Gouvernement sous-minois, Écho d'économie vous propose une série de portraits de ministres dont les portefeuilles relèvent de la sphère économique. Dans l'émission de ce soir, le portrait de Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale. La Banque centrale du Congo maintient inchangé son taux directeur. Ceci ressort de la réunion du comité de politique monétaire tenue vendredi dernier à Kinshasa. Bienvenue à tous. Vous le savez, le gouvernement sous-minois est connu maintenant depuis quelques jours. À cette occasion, Écho d'économie vous propose une série de portraits de ministres dont les portefeuilles relèvent de la sphère économique. Pour ce premier numéro, Cynthia Bachizi Nabizana s'est intéressée au vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Moukoko Samba.
C'est un technocrate qui fait l'unanimité désormais patron de l'économie nationale. Il signe ainsi son retour au gouvernement une décennie après avoir été aux affaires. Professeur d'université, Daniel Moukoko Samba est l'ancien directeur de cabinet adjoint du premier ministre Augustin Matata Mponyo et ancien vice-premier ministre et ministre du budget en 2012. Ce brillant économiste bien introduit dans la sphère politique doit faire face à certaines urgences. Rétablir le pouvoir d'achat des Congolais avec une devise nationale en perte de vitesse face aux devises étrangères. Il est aussi surtout question de poursuivre l'émission de diversification de l'économie congolaise trop dépendante du secteur extractif. Persuadé qu'il faut remodeler l'État pour en faire un agent de développement, comme il l'écrit dans son ouvrage « Guérir du mal zaïrois », le professeur Moukoko Samba est l'architecte de la bancarisation de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. Il est aussi à l'origine de plusieurs réformes de finances publiques.
Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo réuni le vendredi 31 mai maintient inchangé son taux directeur et le coefficient des réserves obligatoires sur les dépôts en francs congolais et en monnaie étrangère. Cette réunion comptant pour le deuxième trimestre 2024, c'est plus apaisanti sur la croissance de l'économie congolaise en 2023 et des perspectives pour 2024. Le Fonds national d'entretien routier FONER ne va pas lésiner sur les moyens afin de recouvrer sa redevance de plus de 81 millions de dollars américains perdu depuis 2018 en Ituri. C'est l'essentiel de la déclaration à la presse samedi du directeur de cabinet, du directeur général de cette institution en visite à Bounia. Accompagné d'une forte délégation composée des agents de la DGDA, il dit avoir mené au moins 3 missions, notamment pour comprendre la réalité de terrain et identifier les auteurs parmi lesquels des opérateurs économiques locaux impliqués dans cette affaire. Martin Malengue confie que toutes les batteries sont mises en marche pour retrouver cet argent et pour renflouer le trésor public. On l'écoute dans cet extrait choisi par Ezekiel Mouzalia.
Cette mission a permis de cerner la réalité du terrain. Une deuxième consiste effectivement à identifier et à cibler les auteurs de ce manque à gagner et d'évaluer ce qui revient à chacun d'eux. Il reste maintenant la phase du recouvrement. Le fondeur ne va pas lésiner sur les moyens afin de recouvrir l'intégralité de sa redevance. Donc l'APLC constitue un appui majeur et je vous le confirme que le résultat que nous avons obtenu à ce jour, en tout cas l'APLC est pour beaucoup. Tous vont concourir à ce que ce manque à gagner, les sommes constatées dans le cadre de ce courage soient recouvrées au profit de l'État congolais. Ils se plaignent de la détérioration de l'état des routes. Ils se plaignent de l'amortissement accéléré de leurs véhicules. C'est eux qui ne veulent pas payer, qui ne manifestent pas leur patriotisme et leur civisme. L'amour du patrie, c'est plus fort que les intérêts individuels. Donc, le DG viendra, il va parler aux opérateurs économiques pour leur montrer les dégâts que leur action commet.
Restons en Ituri, où la diminution des taxes est un facteur clé pour la mise en œuvre du programme de démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire dans cette province. C'est ce que recommande le gouverneur honoraire de l'Ituri Pacifique Keta au cours d'un atelier de redynamisation de ce programme du gouvernement par l'économie. Cet opérateur économique demande au gouverneur d'assainir le climat des affaires, c'est là en vue de permettre aux démobilisés et aux jeunes à risque d'exercer des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation. Le point avec Ezekiel Muzalia.
L'économie de l'Ituri, quasiment tournée vers l'extérieur dans l'Ouganda voisin, nécessite des réformes judicieuses, notamment en diminuant des taxes jugées illégales, ce qui empêche des producteurs locaux d'investir localement à travers des activités génératrices de revenus. D'autres qui déplorent l'acharnement des agents percepteurs des taxes et préfèrent travailler dans l'informel. Selon le gouverneur des provinces honoraires de l'Ituri, Pacifique Keta, et un des opérateurs économiques de la place, cet état des choses décourage surtout les jeunes à risque de déposer les armes pour s'y réinsérer dans la société et se lancer dans l'entrepreneuriat. Pour lui, la réforme de l'économie est un défi majeur pour la mise en œuvre du PDDRCS et la prise en charge de ces jeunes oisifs. Pacifique Keta.
Quand on parle de l'assainissement du commerce d'affaires, c'est essayer un peu de voir quelles sont les taxes qui sont légales et quelles sont les taxes qui sont illégales. Une bonne partie de nos populations qui ont pris les armes, ils sont dans l'agriculture. Et si on relance l'agriculture, ça peut nous permettre assez que ça stabilise. Et il faut travailler dans des domaines agricoles qui pourra aider à ce qu'on puisse prendre en charge les ex-combattants.
Pour ces commerçants, cette approche devrait inclure aussi la formation des jeunes et l'accompagnement du gouvernement pour le développement de l'Ituri. Bounia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Écho d'économie.
Le manque de routes praticables dans la province du Kasaï central ne facilite pas les échanges commerciaux ni l'évacuation des produits vivriers vers les grands centres de consommation. La route Kalambambouji, longue de 223 km qui relie Kananga à la République d'Angola, est totalement délabrée. Les véhicules mettent 5 mois pour atteindre Kananga et vice-versa. Il y a 6 ans pourtant, la circulation des véhicules sur cette route était de 4 à 5 heures du temps. D'autre part, il n'y a plus aucune route des dessertes agricoles en état de praticabilité. Des produits vivriers sont bloqués à l'intérieur de la province et les agriculteurs ont baissé leur production. Sur les marchés, les habitants ne peuvent que constater la montée vertigineuse des prix. Que faut-il faire pour désenclaver la province du Kasaï central? Marcel Mbangu, analyste politique et expert en prévention, gestion et résolution des conflits au Kasaï central, répond à cette question et à d'autres au micro de Gisèle Cage.
Les désenclavements du Kasaï central commencent par l'ouverture de la route Kananga Kalambambouji, qui est une route salutaire. Nous sommes au centre du pays, nous n'avons qu'une seule voie, une seule connexion avec l'extérieur, qui est cette voie de route Kalambambouji. Il y a encore une deuxième voie qui nous amène vers Tchikapa, la route nationale. Et donc il suffit seulement que cette route qui mène vers Kalambambouji soit construite, et vous verrez qu'il y aura la circulation de biens, et que cela va jouer sur l'économie de la province, donc il n'y a pas de magie. Au-delà de cette route de Kalambambouji, il y a aussi la nationale numéro 1 qui quitte de Kananga vers Tchikapa et de Tchikapa vers Kinshasa. Et donc, si réellement il y a réhabilitation de cette route, donc cette route-là est construite, et que le Kasaï central a facilement l'accès aux provinces serres, il y a lieu que cette population puisse entreprendre. Et au-delà de l'entrepreneuriat, il y aura baisse de coûts des billets de transport. Actuellement, pour quitter Kananga vers Kinshasa, il n'y a que l'entreprise de l'État qui est Congo Airways. Ils vendent le billet à 117 dollars, mais c'est 145. Et plus des taxes et GoPass, tu vas au-delà de 170 dollars. Mais si peut-être il y a réhabilitation ou la construction effective de cette route-là qui mène vers Kinshasa, les gens-là des transports aériens seront obligés de baisser les prix de billets. Et donc, c'est ça, il n'y a pas de magie à faire. Il suffit seulement de construire Kalambambouji et aussi terminer cette route qui a commencé il y a longtemps et qui s'était arrêtée à Kamosha, dont les travaux viennent à peine de commencer. Qu'on achève cette route-là, vous verrez que l'économie du Kasaï central va refaire sa santé.
Quel est l'état de l'économie ici au Kasaï central?
L'économie au Kasaï central est au rabais. Une boîte d'allumettes ici, c'est 150 francs. Un savon coq, ici, c'est à 1000 francs. De l'eau canadienne, de petites bouteilles, là, c'est à 2500. Des grosses bouteilles, à 5000 francs. Vous comprenez que si cette population que vous voyez en train de circuler, parce qu'elle manque où aller.
Les produits viennent d'où pour atteindre Kananga? Des produits manufacturés, si je peux dire ça.
Pour des produits manufacturés, il n'y avait qu'une seule voie. Le produit quittait des Kalambambouji vers le centre-ville. Et à partir du centre-ville, il y avait des commerçants qui pouvaient amener ça dans des territoires. Au-delà de Kalambambouji, il y a aussi des produits qui venaient de Kinshasa, à travers des camions, qui, une fois au centre-ville, de commerçants...
Sont toujours pas Kalambambouji.
Non, ça c'est une autre route. Vous quittez de Tchikapa, Tchikapa, Kananga. Okay. Vous laissez votre gauche qui va vers Kalambambouji. Ce qui pose problème, ce ne sont même pas des produits manufacturés, mais des produits vivriers. Il y a des productions qui se font dans des territoires. Mais par manque des routes, des dessertes agricoles, il n'y a pas moyen d'amener ces histoires-là de première nécessité vers les centres de consommation. Donc, il faut toute une politique de construction des routes des dessertes agricoles, mais qui doit les faire avec une régie financière qui peine à mobiliser et canaliser les recettes. Nous ne sommes pas comme les Lualaba, le Nord qui veut le Sud, qui veut y a plus de minéraux. Nous sommes une province, vous allez plus trouver. Donc la majorité ne sont que les administratifs. Nous avons l'unique régie financière. S'ils vont maximiser plus, ils peuvent atteindre 200 millions de francs congolais. Avec cette difficulté-là d'abord de maximisation et démobilisation des recettes, est-ce qu'on peut arriver à construire des routes? C'est ça la difficulté.
Mais est-ce qu'il y a des routes, des dessertes agricoles qui sont en état de praticabilité aujourd'hui?
Les gens se débrouillent, il n'y en a pas. Il y a beaucoup à faire dans ce secteur-là, il y en a beaucoup.
Comment se passe alors l'évacuation des produits vivriers? À vélo, à moto?
Ce sont des bayandas qui ramènent ces histoires-là du village vers la ville. Donc ils utilisent des vélos.
C'est en petite quantité?
En petite quantité, vous comprenez. Nous avons eu le problème avec le chemin de fer. Il y avait certaines marchandises qui quittaient de Ndemba vers le centre de consommation. Il y avait aussi des marchandises qui quittaient de Dibaya vers le centre-ville par le chemin de fer. Mais il suffit seulement d'utiliser les trains. Vous allez comprendre que plus rien n'est resté. Même si on parvenait à cultiver au niveau de nos territoires, mais pour ramener la marchandise vers le centre de consommation, ça va toujours trouver des problèmes. C'est ce qui fait assez qu'à leur niveau, qu'ils puissent diminuer la production. Parce qu'ils savent que si vous produisez plus, vous allez vendre ça où?
Donc la production a diminué au niveau des agriculteurs.
Oui, mais c'est la conséquence. Quand il n'y a pas de route de dessertes agricoles, ceux qui produisent doivent diminuer. Donc ils ne peuvent produire que pour la consommation locale. L'État actuellement est dans l'obligation de revoir sa politique de gestion sur le plan économique.
Merci Monsieur Arsène Mbumba. Je rappelle que vous êtes analyste politique et expert en prévention, gestion et résolution des conflits ici au Kasaï central. Merci.
C'est à moi de vous dire merci madame.
C'est par ici que prend fin Écho d'économie de ce soir. Alain Ngoy était à la prise de son, Debs Vita et Hervé Voka à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.